Louis.
Le droit international humanitaire aujourd'hui est violé tous les jours.
Que dit le droit international humanitaire à ce sujet ?
Serious violations of international human rights law.
Ça fait partie de leurs obligations. C'est pas optionnel, le droit international humanitaire.
Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le risque d'un accident nucléaire plane. Les frappes se sont multipliées autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, au sud du pays. Il y a eu aussi des combats sur le site radioactif de Tchernobyl. Une attaque nucléaire, ça paraît impossible. Mais c'est pourtant déjà arrivé. Utilisé par les États-Unis à deux reprises dans notre histoire. Hiroshima d'abord, le 6 août 1945, puis Nagasaki, 3 jours plus tard. Ces deux bombes ont tué au moins 215 000 personnes. Deux villes rayées de la carte par le feu nucléaire. Depuis cette tragédie, le droit international humanitaire a évolué en prenant en compte cette arme, mais pas suffisamment pour la Croix-Rouge. L'association se mobilise pour interdire totalement la possession de ces armes. Je travaille à la Croix-Rouge française depuis une dizaine d'années. Je m'appelle Sophie Bakker et dans cet épisode de Cliché, nous vous faisons entendre le témoignage de Michi Takeuchi.
Mon grand-père et ma mère ont survécu à la bombe atomique d'Hiroshima. Mon grand-père a été envoyé de Tokyo en 1937 pour être en charge de la construction de l'hôpital de la Croix-Rouge à Hiroshima. Il était chirurgien dans l'armée. Là-bas, la population était d'environ 350 000 personnes. Il a été le fondateur et premier directeur de l'hôpital de la Croix-Rouge quand la bombe atomique a été larguée. Mon grand-père a été gravement blessé quand la bombe atomique a explosé. Une porte lourde est tombée sur lui. Il a perdu connaissance et des morceaux de verre ont percé son corps un peu partout. Il en a eu les jambes cassées et il ne pouvait plus bouger. Malgré tout, il donnait les directives à tout le personnel médical de l'hôpital de la Croix-Rouge depuis son lit. Et ma mère, qui avait 19 ans et qui a survécu à la bombe atomique parce qu'elle se trouvait en banlieue, a décidé de se rendre jusqu'au centre d'Hiroshima. D'aller à l'hôpital de la Croix-Rouge, qui était à 1,5 km de l'épicentre. Elle y est allée pour retrouver son père. Elle voulait savoir si son père était en vie ou s'il était mort ou blessé. Et elle a découvert son père, sévèrement blessé, mais toujours en train de travailler. La première chose que mon grand-père a dit, c'est « Où est la radio ? Apportez-moi la radio !» Et bien sûr, il n'avait pas réalisé que tout était complètement détruit. Donc je suis sûre qu'il a réalisé qu'il y avait des dégâts catastrophiques. Mais c'était le tout début, personne ne savait ce qu'il s'était vraiment passé. Quel genre de nouvelle arme avait été utilisée ?
Des conséquences inimaginables, d'après le premier constat fait par des équipes de la Croix-Rouge sur place. Le docteur Marcel Junod en fait partie. Délégué du comité international de la Croix-Rouge, il est le premier médecin arrivé à Hiroshima un mois après la bombe. Le 8 septembre 1945, il note
« Le centre-ville a été aplati comme le creux de la main. Plus rien. C'est une vision d'effroi. »
Marcel Junod recueille les témoignages des habitants et il parvient à remonter le fil des événements. Ce matin-là, vers 8h15, les Japonais vont au travail quand une lueur inconnue, à la fois blanche et rose, apparaît. Immédiatement suivie par une bourrasque d'une chaleur irrespirable qui a tout balayé sur son passage. Dans les rues, les jardins, des milliers de femmes et d'hommes sont terrassés. Des tramways sont déplacés, des quartiers en poussière.
Donc ça, c'est l'histoire que j'ai entendue de ma mère. Je ne l'ai jamais entendue de mon grand-père. Il y a une certaine peur concernant l'impact potentiel des radiations. Et les gens d'Hiroshima n'en parlaient pas vraiment. Je suis sûre que mon grand-père a récupéré et qu'il a bénéficié d'un traitement. Et sa mort était plutôt due à un problème cardiovasculaire. Ce n'était pas un cancer. Ma mère, elle, est morte d'un cancer du pancréas. Elle avait des problèmes de santé, et maintenant que j'y pense, c'était sûrement post-traumatique, parce qu'elle était souvent plutôt déprimée. Ça peut avoir un lien avec ce qu'elle a vécu. Son expérience horrible de s'être rendue à l'hôpital de la Croix-Rouge pour prendre soin de son père juste après le 6 août. Donc elle était officiellement considérée comme une Hibakusha, une survivante de la bombe atomique. J'ai grandi en n'étant absolument pas au courant de la bombe atomique et de ce qu'avaient vécu les habitants d'Hiroshima. J'ai réalisé bien plus tard que c'est à cause de ce traumatisme que les survivants ont décidé de garder le silence. Ils voulaient continuer à aller de l'avant. Donc il y a une certaine fierté et puis du respect pour les gens qui sont morts. Il y a une raison importante qui explique ce silence. C'est que l'arme nucléaire était un nouveau genre de bombe qui avait un pouvoir énorme et qui a provoqué des dégâts colossaux. Je parle là des radiations. Les gens d'Hiroshima et Nagasaki étaient vraiment, vraiment effrayés par l'impact potentiel sur les futures générations. En d'autres termes, être une victime de l'arme nucléaire renvoyait à un genre de stigmate et de discrimination. C'est pour ça que les gens ont gardé le silence. Et j'ai découvert ça récemment, parce que personne ne m'en avait parlé quand je vivais à Hiroshima. Et un jour, une amie américaine m'a dit « Michi, tu sais, ce n'est peut-être pas ton histoire, mais notre histoire à tous que tu dois raconter. » Pour que cette même erreur, cette même horrible expérience n'arrive plus jamais à aucun d'entre nous. Ça m'a directement fait changer d'avis. Et c'est là que j'ai décidé que je devais faire quelque chose et que je devais raconter cette histoire.
Août 1945 reste toujours un choc pour le mouvement international de la Croix-Rouge, qui ne cesse depuis de demander l'interdiction totale des armes nucléaires. Que s'est-il passé depuis ? Avec le conflit en Ukraine, Hiroshima et Nagasaki ne semblent plus appartenir au passé. Cette arme totale pourrait frapper de nouveau.
On a tendance à oublier ce que l'histoire a réalisé, et évidemment l'être humain ne se rappelle de ces moments-là que lorsqu'il est devant le gouffre. Un point qui est important de notifier, c'est que Hiroshima et Nagasaki ne sont pas des erreurs. Ont été bombardées volontairement. Volontairement, il y a eu cette volonté de détruire ces deux villes avec une arme nucléaire.
Que dit aujourd'hui le droit international humanitaire sur ces armes ? Peut-on s'en protéger ? Ces questions préoccupent depuis longtemps Jean-Marie Collin.
Alors, je m'appelle Jean-Marie Collin, je travaille pour ICAN France, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, sa branche française, et je travaille sur les questions de désarmement depuis une vingtaine d'années. Entendre une personne qui a été victime de cette horreur de l'histoire, ça laisse toujours des frissons, et ça permet véritablement de faire comprendre que les armes nucléaires, ce n'est pas un simple objet que l'on balade à travers quelques mots comme la dissuasion nucléaire, que c'est une réalité, qu'elles sont destinées à détruire des populations. Et donc, véritablement, ça remet correctement les idées en place sur l'horreur de ces armes.
Les victimes japonaises des horreurs de la Seconde Guerre mondiale sont appelées les Hibakusha. Elles témoignent de la vie après la bombe et de ses séquelles. des souffrances psychologiques mais aussi physiques, comme des brûlures à soigner tout au long de la vie. C'est leur rencontre qui a poussé Jean-Marie Collin, jeune chercheur à l'époque, à se battre pour l'abolition de ces armes. Il a ensuite constaté, sidéré, que des gens, en Algérie et en Polynésie française, étaient aussi concernés, là où la France a mené des essais nucléaires. On estime que depuis 1945, plus de 2000 essais nucléaires ont été réalisés, des essais qui ont causé des victimes comme des dégâts sur l'environnement.
Vous avez bien sûr des problématiques de cancer directement. Des personnes aussi ont vu une partie de leur ADN changer également et qu'elles sont soignées. Et donc, on a des personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui et qui sont affectées par ce drame. On parle aussi d'importance de changement, de dérèglement climatique pendant plusieurs mois qui engendrerait des famines plus ou moins importantes selon les périodes de l'année, les quantités d'armes nucléaires qui seraient utilisées, mais en tout cas des problématiques majeures à laquelle l'humanité ne pourrait pas être capable de se confronter. Et donc, c'est toute la difficulté de ces armes nucléaires, et c'est pour ça que ces armes doivent être totalement éliminées, c'est qu'à la différence d'une arme classique, conventionnelle, qui va venir tuer, détruire, puisque c'est l'objectif de cette arme, des soldats, une infrastructure, où il n'y aura très peu d'effets par la suite. Ici, les armes nucléaires, vous avez des séquelles sur des générations entières et bien sûr une pollution qui va rester de manière permanente. C'est vrai qu'Hiroshima et Nagasaki ont marqué un tournant devant la capacité de l'être humain à finalement se donner le droit de vie ou de mort sur cette planète. Et donc, on est toujours dans ce tournant.
Jean-Marie Collin ne cesse depuis de le marteler. L'arme nucléaire n'a pas disparu avec Hiroshima et Nagasaki. Ce n'était pas qu'une erreur de l'histoire. Son indignation ne se contente pas au discours. ICAN, à laquelle il appartient, est une campagne internationale lancée en 2007. À l'époque, ses membres s'interrogent. Mais pourquoi possède-t-on encore des armes nucléaires ? 62 ans après Hiroshima et Nagasaki, quand ICAN lance sa campagne, le droit international humanitaire n'interdit pas l'utilisation de ces armes nucléaires. Résumé en DIH, ce droit est en réalité le droit des conflits armés. Et à ce moment-là, le DIH impose pourtant à tout État en guerre de ne pas infliger trop de dégâts dans les troupes ennemies.
Règle numéro 70 du droit coutumier. Il est interdit d'employer des moyens ou des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.
Dans sa toute première règle, ce droit interdit aussi de diriger des attaques contre des civils. Mais alors que le largage d'une bombe nucléaire semble, a priori, contraire à ces deux principes, l'arme nucléaire n'est jamais mentionnée à ce moment-là dans le droit. Pour s'y atteler, ICAN organise des discussions à l'ONU.
C'est un processus qui est venu au fil des réflexions qui se sont installées avec les États, les Autrichiens, les Irlandais, le Mexique, l'Afrique du Sud, le Costa Rica, la Norvège pendant une période aussi, les Suisses aussi de façon importante. On doit travailler sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires. On doit s'interroger sur qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident nucléaire, qu'est-ce qui se passe s'il y a un emploi involontaire. Toutes ces interrogations ont donné un certain nombre de réponses, que tout d'abord, en cas d'utilisation d'une arme nucléaire, eh bien, la pollution et les conséquences ne se limitent évidemment pas au pays, mais va s'étendre à un ensemble d'États. Et la conclusion la plus importante, c'est de dire qu'en fait, on n'a aucun moyen d'aller porter assistance aux victimes qui arriveraient à survivre à cette catastrophe. Et donc, le seul moyen d'éviter tout ça, c'était d'interdire et bien sûr d'engager l'élimination des armes nucléaires.
Les États cités par Jean-Marie Collin sont volontaires pour interdire l'utilisation de ces armes. Ce n'est pas le cas de tous, en particulier des 9 pays détenteurs de l'arme nucléaire. La Russie donc, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël, la Corée du Nord et la France. Ces États fondent leur puissance sur la menace d'utiliser cette arme. Alors l'interdire, ça reviendrait à porter atteinte à leur supériorité. Mais ICAN et Jean-Marie Collin peuvent compter sur le soutien de beaucoup d'autres pays.
Et au fur et à mesure, face à la réticence des puissances nucléaires, face au manque de volonté et à la mauvaise foi pour engager des armements nucléaires, ce groupe d'États, qui a grossi de plus en plus, jusqu'à 123. Notre campagne, qui a grossi en même temps, le CICR, qui a aussi mobilisé ses moyens, ses forces juridiques, eh bien, sont arrivés devant cette fameuse conclusion qu'il manque une norme, il manque un traité pour engager, pour pousser, d'une part, à l'interdiction, mais surtout à l'élimination des armes nucléaires. Nous avions des normes qui interdisent les autres armes de destruction massive, les armes chimiques, les armes biologiques, des armes dites inhumaines, comme les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions. Mais l'arme la plus destructrice n'était pas encore interdite globalement.
Mais des négociations finissent par avoir lieu à l'Organisation mondiale des Nations unies. Jean-Marie Collin était présent et il a assisté à une victoire pour ICAN. L'adoption du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le TIAN est adopté le 7 juillet 2017, soit 10 ans après le lancement d'ICAN.
Pour avoir participé à l'ensemble de ce processus, je pense qu'on a un peu tremblé à chaque instant, et notamment ce dernier jour où on savait qu'il allait y avoir un vote, et ça fut véritablement un ouf de soulagement, des larmes, beaucoup d'émotions, lorsque enfin, ce traité a été adopté. Tout le monde pouvait vraiment s'exprimer pour donner sa volonté, son souhait sur la création ou pas la création, ou sur le type de règles qu'il pouvait y avoir dans ce traité. Et après 5 semaines, 6 semaines de négociations en 2017, à l'ONU à New York, le 7 juillet 2017, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires a été adopté de manière écrasante. Et donc, les armes nucléaires sont légalement aujourd'hui interdites. Et ça, c'est une vraie révolution.
Article 1er du TIAN. Chaque partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, mettre au point, à laisser, produire, fabriquer, acquérir, posséder ou stocker des armes nucléaires ou tout autre dispositif explosif nucléaire.
Une révolution dont se félicite bien sûr le mouvement de la Croix-Rouge. Et cette victoire provoque une prise de conscience si salutaire qu'elle permet à Jean-Marie Collin et aux autres membres d'ICAN d'obtenir le prix Nobel de la paix en 2017. Mais 5 ans après cette victoire, il reste un gros blocage. Aucun État, détenteur de l'arme nucléaire, n'a pour l'instant ratifié ce traité. Mais Jean-Marie Collin s'accroche à des avancées constantes.
Nous avons 68 États qui l'ont ratifié. Donc le traité est entré en vigueur le 22 janvier 2021. 91 États qui l'ont signé, il y a une dynamique concrète qui se réalise, c'est-à-dire que nous avons chaque année, depuis 2017, des signatures et des ratifications, et ce même pendant la période de la crise du Covid, qui a aussi affecté, ralenti un certain nombre de processus diplomatiques ou parlementaires dans tous les États. Donc ça, c'est à souligner. Le traité vit, puisqu'il a une conférence des États parties qui s'est déroulée en juin 2022, une prochaine en novembre 2023, avec des décisions. Il a toute une partie sur le désarmement nucléaire qui, effectivement, aujourd'hui, ne peut pas se réaliser en tant que tel, puisque il n'y a pas d'État qui possède des armes nucléaires encore dans ce traité. Ça ne veut pas dire que rien ne peut être fait. Il y a notamment toute une réflexion sur le processus de désarmement. Dans le TIAN, il y a une notion de calendrier, c'est-à-dire qu'on donne un agenda qui a pour but de créer toujours cette dynamique, cette pression. Il y a aussi dans ce traité une pression qui s'exerce sur la question du financement. Et c'est donc là aussi l'intérêt, c'est que les acteurs privés, les banques, sont interdites de financer un certain nombre d'entreprises qui fabriquent ou produisent des systèmes d'armes essentiels à la conception des armes nucléaires, ou en tout cas à leur mise en œuvre. Et donc un certain nombre de banques à travers le monde ont décidé de renoncer, de lister sur des listes noires ces entreprises. Le Fonds souverain norvégien a listé sur sa liste noire Dassault, Thales, Safran, Airbus, la compagnie italienne aussi qui aide à la conception d'un missile de croisière nucléaire française. Donc ça avance. Donc il y a bien une pression globale qui est exercée sur les États détenteurs d'armes nucléaires et qui autorise aujourd'hui la conception, la potentielle utilisation. Et là où on doit s'interroger, c'est non pas de savoir si les États-Unis ou la France ne le ratifient pas, c'est un impact, c'est plutôt, et s'il n'existait pas ces normes, quelle serait la situation mondiale?
Pour Jean-Marie Collin, le droit international humanitaire qui interdit désormais l'usage d'une arme nucléaire a un impact. Et même auprès des États détenteurs de l'arme qui refusent encore de le ratifier. Selon lui, même l'argument dissuasif ne tient plus. Celui qui les pousse à dire « On ne viole pas le DIH, vu que nous détenons cette arme, dans l'unique but de dissuader nos potentiels agresseurs de nous attaquer.
Comme la menace d'emploi, donc la politique de dissuasion est interdite, ça remet aussi en cause leur politique de défense. Et donc c'est ce qui, probablement, les met le plus en colère contre ce traité, c'est de voir que leur propre politique de défense est vue comme quelque chose de contraire au droit international humanitaire. Mais encore une fois, la dissuasion nucléaire est trop souvent vue comme quelque chose de positif. La dissuasion nucléaire, ça veut dire que chef d'État, l'armée, ont conscience, se préparent à pouvoir utiliser des armes. Et pour pouvoir se préparer à utiliser des armes, ça veut dire qu'on sait où on va utiliser ces armes. On cible un certain nombre de villes, Moscou, Pékin et d'autres villes à travers ces deux États. En faisant peur que l'on puisse détruire potentiellement ces villes, ça veut bien dire qu'on va à l'encontre du droit international humanitaire, puisque normalement, il y a un principe de distinction qui est celui que l'on ne doit pas affecter les populations civiles. Or là, on va viser volontairement des populations civiles. On va viser volontairement aussi des œuvres d'art qui sont protégées par ailleurs, par différentes chartes ou résolutions ou actions à travers l'UNESCO, par exemple. On va potentiellement mettre en danger aussi peut-être des sites nucléaires civils, puisque la répercussion de la catastrophe sur peut-être des villes comme Moscou peut avoir des implications sur aussi des centrales nucléaires qui peuvent se situer autour d'elles. Donc on va potentiellement créer une catastrophe majeure. Donc, tout ça, aujourd'hui, est interdit par ce droit international humanitaire à travers le Tian. Et c'est bien grâce à l'inclusion, à la création de ces différentes normes que l'on est arrivé, la communauté internationale, à limiter l'usage et les victimes des populations civiles, qu'on est arrivé à rendre les guerres un peu moins horribles, même si une guerre reste par essence effectivement horrible. Ces règles de droit sont uniquement comme objectif de nous protéger et de protéger les populations et les générations futures.
C'est ce que le droit international humanitaire interdit aujourd'hui. Mais il ne faut pas croire que le combat de Jean-Marie Collin est pour autant terminé auprès d'ICAN.
La grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est combien de temps il n'y aura pas d'autres utilisations sur des villes, mais pendant combien de temps on a cette chance qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire volontaire ou de guerre nucléaire accidentelle. Et c'est vrai que le conflit en Ukraine a ramené sur le devant de la scène la question des armes nucléaires, la question des conséquences des armes nucléaires, mais a écarté totalement, apparemment dans l'écrasante majorité des médias occidentaux en tout cas, le sujet du désarmement, le sujet de « il faut éliminer ce système d'armes ». On peut dire probablement que la menace, c'est la deuxième fois où la menace est la plus forte après la crise de Cuba de 1962, qui malheureusement, enfin, fête de l'histoire, on a commémoré ses 40 ans à l'automne dernier. Donc la menace est actuellement extrêmement très forte du fait de ce conflit, du fait d'impliquer une puissance nucléaire, du fait que cette puissance nucléaire, et ça c'est véritablement quelque chose de nouveau, utilise son arsenal nucléaire pour se donner le droit d'aller envahir un autre État. C'est-à-dire que la Russie sait très bien que du fait d'être une puissance nucléaire, les autres États qui possèdent des armes nucléaires ne souhaitent pas lui faire la guerre, puisque tous ces hommes d'État ont tous conscience des conséquences de l'arme nucléaire. Et donc la Russie utilise son arsenal nucléaire dans ce sens-là. C'est pour ça qu'elle fait des provocations très fortes. Dans le même temps, les Français, les Américains ou l'OTAN d'une manière générale ont toujours dit, et c'est la raison pour laquelle, qu'ils ne feraient jamais la guerre à la Russie, qu'ils ne mettraient jamais un militaire otanien sur le territoire ukrainien, de peur de rentrer en contact direct dans un conflit avec la Russie qui pourrait donner une escalade justement nucléaire. Par contre, personne ou trop peu de personnes ont noté que depuis mars, au moins 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français sont partis dans les eaux profondes des océans. Normalement, il n'y a qu'un seul sous-marin. Un sous-marin français emporte 16 missiles. Le total que ces missiles emportent en termes d'ogives nucléaires, c'est presque une centaine. Et ça équivaut à 1000 fois Hiroshima. Donc on a eu pendant un certain temps près de 3000 fois potentiellement Hiroshima sous les mers. Et donc si on a mis ces sous-marins sous l'eau, c'est bien parce que l'on a ressenti, en tout cas le gouvernement a ressenti une menace. Le slogan qui a été de dire pendant 80 ans, 77 ans, l'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire apporte la paix, on voit bien que c'est bien grâce à l'arme nucléaire que la Russie réalise aujourd'hui des actes horribles, des crimes de guerre, et puis bien sûr réalise une invasion et une guerre qui est totalement illégale. Donc oui, le danger est extrêmement fort. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de connaître d'autres surprises dans les années qui viennent, c'est-à-dire qu'on est devant une véritable crise qui nous ramène bien à l'idée qu'on est devant un gouffre nucléaire. Et donc toute la question, c'est pendant combien de temps nous acceptons d'être face à ce gouffre nucléaire?
le droit international humanitaire reste son combat quotidien. Jean-Marie Collin, vous l'avez compris, ne s'est pas arrêté à cette victoire avec le Tian et à son prix Nobel de la paix, même si un autocollant du Nobel orne fièrement son téléphone portable. Le combat de Jean-Marie Collin aujourd'hui, c'est de pousser à l'abandon des armes nucléaires auprès des politiques, des gouvernements. On peut croire sa démarche assez illusoire, mais il nous pose à tous la question « De quel monde voulons-nous ? »
Alors oui, on peut toujours et on doit toujours s'inquiéter d'un recul. Il y a une nécessité de toujours les répéter et de toujours employer ces mots qui ont trop souvent tendance pour un certain public à se dire « Oui, mais c'est des grands principes, oui, mais finalement... » Si en lendemain 1945, après les horreurs de cette guerre mondiale, tant au Japon qu'en Europe, après les horreurs qui ont été infligées aux populations juives principalement à travers les camps d'extermination, l'être humain s'est dit « Il faut changer les règles de la guerre. Il faut pénaliser un certain nombre de choses. Il faut limiter le droit de faire la guerre, finalement, dans certaines conditions. » C'est bien parce qu'il y a eu cette prise de conscience et que l'humanité devait se transformer en quelque chose de meilleur. Il est nécessaire, à chaque fois, à chaque instant, de rappeler ces éléments et de les mettre en avant, puisque c'est ce qui fonde notre humanité et c'est ce qui doit nous permettre d'avancer. Oui, le DIH est en danger. Les exactions commises par la Russie le prouvent, puisque les normes, par essence, comme je l'ai indiqué, au départ, on les combat. Après, on les accepte. Et puis, tout doucement, on peut commencer à les oublier. Et c'est là le danger.
Vous venez d'écouter Cliché, un podcast coproduit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Si ces propos vous ont fait réfléchir, Jean-Marie Collin vous propose d'aller voir sur le site de la Croix-Rouge un clip sur le sujet. Il évoque plusieurs scénarios sur ce qui se passerait après une attaque nucléaire. Le lien vers le film est dans la description de cet épisode avec d'autres références pour aller plus loin sur le sujet des armes nucléaires. Cet épisode de Cliché a été tourné, écrit et monté par Marion Botorel. Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage. Elsa Berthaud a aidé à la production. À très vite.